Bilan en demi-teinte, goût d'inachevé, historique mais sans ambition. Il suffit de lire les papiers publiés dans les médias ces derniers jours pour se rendre compte que peu de monde semble totalement satisfait de ce qui ressort de la COP27 qui vient d'avoir lieu à Sharm el-Cheikh en Égypte. Annoncé pour le vendredi puis le samedi, c'est finalement au petit matin du dimanche que les 196 pays présents ont ratifié le texte final de cette conférence des Nations Unies pour le climat. Des négociations dans la douleur, dit-on. Et quand on est journaliste, suivre les tenants et les aboutissants de ces discussions relève parfois d'un marathon. Je m'appelle Alexandra Cagnard et c'est dans les coulisses de cette conférence que vous emmène aujourd'hui Témoin d'actu. Il y a tout juste un an, ce podcast s'interrogeait. Y a-t-il encore des raisons d'espérer après la COP26 ? Anne-Cécile Bras, la journaliste environnement qui présente l'émission « C'est pas du vent » sur RFI, était venue dans Témoins d'actu et elle m'avait confié avoir eu les larmes aux yeux en quittant l'Écosse où avait lieu cette COP. Malgré leurs alertes, leurs témoignages, les pays du Sud n'avaient pas obtenu l'aide financière qu'ils réclamaient pour leur permettre de s'adapter aux conséquences du changement climatique. Un an plus tard, la COP27 franchit ce pas et valide la création d'un fonds financier spécifique appelé « pertes et dommages ». En revanche, pas d'avancée sur l'abandon des énergies fossiles, dont l'utilisation intensive est la principale responsable du réchauffement de notre planète. Bonjour Anne-Cécile.
Bonjour Alexandra.
Est-ce que cette année encore, tu as quitté cette conférence des parties avec les larmes aux yeux ?
Non, pas de larmes cette année, parce qu'il y a quand même eu une avancée qualifiée d'historique, hein, d'ailleurs par les pays les plus impactés par le changement climatique, qui est la création de ce fonds sur les pertes et dommages. Alors c'était la création d'un fonds que nous attendions depuis très longtemps, surtout les petits États insulaires et les pays africains. Donc voilà, il n'y a pas eu beaucoup d'avancées autres, notamment pour inciter à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais la création de ce fonds, c'est quand même un grand pas.
Cette avancée pour les pays les plus vulnérables au changement climatique, si j'ai bien compris, elle ne se dessinait pas vraiment durant ces 15 jours de COP. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance ? Qui a vraiment le pouvoir pour arriver à un accord ?
Alors, si, on savait avant la COP que cette question des pertes et dommages allait vraiment être au centre de cette conférence pour deux raisons. La première raison, c'est que les conséquences des changements climatiques augmentent. On le voit sur tous les continents. Tout le monde a en tête le Pakistan qui a un tiers de sa surface inondée et des dizaines de millions de personnes déplacées. Donc ça, c'est quand même un fait. Et puis la nécessité, je vais parler comme Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, mais la nécessité de restaurer la confiance entre les pays du Sud et les pays du Nord, parce que il y avait 100 milliards de dollars qui avaient été prévus d'être mobilisés par année à partir de 2020 pour aider justement les plus vulnérables à atténuer leurs propres émissions et à s'adapter aux conséquences du changement climatique. Or, aujourd'hui, il n'y a que 83 milliards de dollars sur la table. Et donc, il y avait une défiance énorme. Donc, c'est plutôt ça, en fait, qui impulse les décisions dans les COP. Il n'y a pas vraiment de chef, quoi. Ce sont des accords qui sont le résultat d'un consensus entre tous les pays du monde. Après, c'est vrai que, pour dire clairement les choses, il y a quand même des pays qui comptent plus quand ils s'expriment que d'autres. Je pense notamment aux États-Unis, à la Chine, à l'Inde, à l'Union européenne qui parle d'une seule voix. Les petits États insulaires aussi sont écoutés parce que comme ils risquent d'être rayés de la carte, il y a une certaine empathie. Idem pour les pays africains. Voilà. Mais c'est le contexte qui définit les urgences dans les COP plus que des personnes ou des pays.
L'an dernier, tu me disais, c'est extrêmement difficile de comprendre les termes de tous ces textes, de comprendre vraiment ce qui se passe en coulisses. Pourquoi c'est si difficile ?
Alors, déjà, tout est en anglais. Donc, quand le texte de l'accord sort, il faut être capable de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur, les subtilités de « schuld » qui se traduit par « devrait » et de « kuld » qui se traduit par « pourrait », par exemple. Ça, Ça peut prendre des heures de négociation parfois. Donc voilà, c'est la lecture du texte est très subtile. Quand il sort, il faut être capable de le décrypter, d'aller directement aux articles qui posent problème, voir si on a gardé charbon, pétrole et gaz dans le texte ou si on a enlevé ces mots. Enfin voilà, tout ça demande un peu d'expérience. Puis après, c'est très compliqué parce que il y a 40 000 personnes, il y a 195 pays, il y a les négociations qui ont lieu d'un côté, il y a les conférences thématiques qui ont lieu en parallèle, il y a les mobilisations des ONG. Vous êtes au milieu de tout ça avec votre micro en train de vous dire, bon, qu'est-ce qui va intéresser le plus mes auditeurs? Et c'est énorme, quoi. C'est vraiment énorme. Donc, il faut hiérarchiser. Il faut être bien organisé et il faut savoir en amont, quoi, disons la veille pour le lendemain, il faut mettre en place sa stratégie pour dire, bon ben voilà, demain je vais couvrir ça, ça, ça. Alors parfois il y a des événements qui bouleversent un peu votre journée, mais il faut vraiment être très organisé et très rigoureux, sinon vous vous perdez.
On a accès à tous les débats.
Non, c'est l'ironie de ces conférences, c'est qu'on n'a pas accès aux salles de négociation, en fait. Certaines, on peut y accéder si tous les pays présents sont d'accord, mais il faut imaginer que c'est un immense centre de conférences où en fait il y a plein de négociations thématiques en parallèle dans des salles où les pays qui sont les plus concernés par ces thématiques se retrouvent. Donc les équipes de négociateurs comme ça sont explosées dans plein de salles avec les directives qui viennent de leur gouvernement, hein. Donc vous, en tant que journaliste, vous n'avez quasiment pas accès à ces salles de négociation. Et souvent, ces négociations ont lieu à huis clos. Donc le jeu, c'est d'essayer de capter les négociateurs. Mais les négociateurs, avec ce que je t'ai dit tout à l'heure, tu te rends bien compte qu'ils sont extrêmement accaparés. Par exemple, moi, j'ai réussi à avoir une interview avec la Sénégalaise Madeleine Diouf, qui était la présidente du groupe des pays les moins avancés à cette COP, qui réunit une quarantaine de pays. Son responsable de communication m'a donné un rendez-vous. Je l'ai attendu plus d'une heure parce que, en fait, elle était retenue dans des négociations et bon, elle a fini par arriver. Elle était très fatiguée, donc il faut la mettre en condition, prendre le temps qu'elle se remette à parler français parce que tout se fait en anglais. Et là, on peut faire une interview. Mais voilà, c'est vraiment difficile d'avoir accès au nerf de la guerre que sont les négociations. Par contre, ce qui est très facile et heureusement, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'en parallèle des négociations, il y a des conférences sur tous les thèmes liés au changement climatique, c'est-à-dire les causes, comment atténuer ces causes, comment s'adapter aux conséquences, etc. Donc, là, vous avez les scientifiques du monde entier, vous avez des entreprises, vous avez des ONG, vous avez des gens du monde entier. Et là, c'est extrêmement facile d'avoir accès à l'information. Il faut juste, là aussi, bien s'organiser. Et pour cela, moi, j'ai une petite ruse, c'est que je me cale sur les thèmes qui sont définis en amont par la présidence de la conférence. Donc, il va y avoir une journée sur la finance, une journée sur les femmes, une journée sur la science, une journée sur les jeunes, une journée sur les forêts, une journée sur l'océan. Et du coup, ça permet de faire une couverture thématique sans refaire des sujets qu'on a fait 2 jours plus tôt ou oublier un aspect dont je n'aurais pas du tout parlé pendant la conférence, par exemple.
Du coup, on fait comment pour s'y retrouver dans tout ça?
Eh bien, écoute, on se débrouille. Non, en fait, il y a 2 sources très importantes qui nous permettent vraiment de nous informer. Ce sont les ONG qui sont très mobilisées pendant ces COP pour mettre la pression sur leur sujet de prédilection, hein. Alors, ça va dépendre, certaines, ça va être plus sur les diminutions de gaz à effet de serre contre les lobbies pétroliers qui sont aussi présents dans ces COP et dont il faut se méfier. Et d'autres, ça va être plutôt la justice climatique, défendre les pays les plus vulnérables et leurs intérêts. Donc voilà, ça c'est une source d'information importante, mais dont il faut se méfier parce que les ONG, elles font leur com aussi, hein, donc il faut quand même vérifier ce qu'elles nous racontent. L'autre source très importante, ce sont les think tanks, le World Resources Institute, par exemple, ou l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales, où là, ce ne sont pas des militants, ce sont des scientifiques, des chercheurs qui travaillent sur le suivi de ces négociations et qui ont accès, du coup, aux négociateurs, aux groupes de pays qui discutent avec eux. Et donc, ce sont aussi des sources importantes. Et puis, quand on arrive à y avoir accès, les personnes les plus chevronnées, je pense à Laurence Toubiana, qui a été l'architecte de l'accord de Paris en tant que ambassadrice de la France pour le climat en 2015, ou l'économiste Nicolas Stern, qui est vraiment l'économiste reconnu sur le coût de l'inaction climatique, ou Bill Eyre, qui est un climatologue australien très connu. Bon, bah, quand vous avez la chance d'obtenir un rendez-vous avec ces gens-là qui sont très 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 demandés dans les COP, tout de suite, ça devient limpide, ils connaissent tous les enjeux, ils vous expliquent tout. Mais voilà, c'est vraiment le jeu du chat et de la souris pour essayer non seulement d'attraper les personnes clés, et en plus de dégager du temps pour échanger avec eux, quoi.
Tu dis quand on a la chance de les avoir, il y a, je crois, 3400 médias qui sont présents lors de ce rendez-vous. Donc, tout le monde essaye de jouer d'écoute finalement. On se raccroche à quoi ?
Alors, on se raccroche à des groupes WhatsApp. Parce qu'en fait, y a une énorme solidarité entre les journalistes. Et ça, c'est vraiment très chouette parce que souvent, on est un petit peu perdu. Donc, par exemple, il y a la Fondation européenne pour le climat qui, tous les ans, met à notre disposition des personnes pour aider les journalistes. Donc, par exemple, cette année, c'était Olivier Hensgen qui animait un fil WhatsApp. Il publiait régulièrement des posts sur l'évolution des négociations, sur les conférences de presse de plusieurs personnes qui se réunissaient ensemble, sur les faits marquants du jour. Et puis, surtout, il nous aidait. Par exemple, je vois, là, je suis en train de lire un échange de textes. Une journaliste qui dit « SOS, je m'embrouille, le projet de décision finale de la présidence égyptienne, c'était hier soir ou cette nuit ?» C'était cette nuit, ça a été rendu public ce matin. « Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Alors, où est-ce qu'on le trouve déjà, le projet de texte ? Il est en ligne ? Oui, mais où exactement ? Dites-le-moi. » Quelques temps plus tard, sur le fil, il y a Olivier Hensgen, par exemple, qui dit « Bonjour, prise de parole de Samé Choukri à 10h30 en face de la Plenary One. » Donc, ça veut dire en face de la salle plénière numéro 1. Et là, derrière, tout de suite, les réactions, c'est « La Plenary Nefertiti ou la Ramsès, elle est où déjà cette salle ? C'est derrière les paravents, mais comment on la trouve ? Je suis en retard, aidez-moi. » Enfin, voilà, c'est exactement ça, les échanges entre journalistes, ou parfois quand, par exemple, les ONG font leur point, tout le monde ne peut pas y être parce que chacun est accaparé. Donc, il y a un enregistrement qui est fait par un journaliste ou un autre et qui est mis sur WhatsApp pour que tout le monde puisse récupérer la conférence de presse à laquelle il avait pu assister. Enfin, voilà, il y a une vraie solidarité et ça, c'est extrêmement précieux. C'est la base. Et puis, à RFI, on a une chance énorme, c'est que nous avons les journalistes en langue étrangère pour les rédactions chinoises, brésilienne, espagnole, anglaise, etc. Et donc ça, c'est vraiment très, très utile. Par exemple, quand Lula, qui était un peu la star de cette COP 27, est venu.
Le président brésilien.
Le président brésilien qui vient d'être élu et qui succède à Jair Bolsonaro, qui était climato-sceptique et qui était une catastrophe pour ces enjeux environnementaux. Donc, quand Lula est arrivé, bah, c'était un petit peu l'émeute, il suscitait beaucoup d'espoir. Et c'est vrai que la proximité de Lucia Musel, qui est donc journaliste RFI à la rédaction brésilienne, avec la délégation brésilienne, nous a été très précieuse. De même, Yang Mai, qui suit pour la rédaction chinoise de RFI ses négociations depuis longtemps, a un lien privilégié avec les négociateurs chinois. Et ça nous a permis de faire une interview d'un négociateur chinois, ce qui est, je pense, une exclusivité RFI. Je crois qu'aucun autre média n'a pu faire cela.
C'est l'Égypte qui organisait, Anne-Cécile, ce rendez-vous. Elle a beaucoup été critiquée durant ces 15 jours. C'était quoi le problème concrètement ?
Alors le problème était sur le fond et sur la forme. Alors sur la forme, parce qu'il y avait des gros problèmes d'organisation même au centre de conférence. La signalétique était épouvantable. Et ça, c'est un vrai problème parce que tout le monde cherchait tout le temps les salles où on devait se rendre. Il y avait une conférence de presse indiquée dans la salle Luxor. Après, donc tout le monde cherchait la salle Louxor. Ensuite, c'était la salle Ramsès ou Néfertiti. Enfin, mais il n'y avait pas de panneaux pour les indiquer. Donc, on passait notre temps à demander aux gens où se trouvaient les salles. Et quand vous avez un négociateur qui vous donne rendez-vous et qu'il a 10 minutes à vous accorder, si vous vous perdez et vous arrivez trop en retard, le négociateur est reparti. Donc, voilà, ça, c'était un problème. L'autre problème, c'était la nourriture, quoi. C'était extrêmement cher au début de la première semaine. Donc, du coup, ils ont divisé les prix par deux. Et il faut savoir que la nourriture, c'est important pour le moral des troupes, hein, parce que c'est compliqué, c'est long. On a besoin de se prendre un café réconfortant ou un petit gâteau de temps en temps, de manger correctement. Et beaucoup de gens arrivaient, en fait, avec de la nourriture. Enfin, les équipes RFI, par exemple, c'était équipé de petites boîtes en plastique et prenaient leur nourriture le matin au buffet de l'hôtel, quoi, pour être sûr d'avoir de quoi manger et sans payer trop cher.
Cette cacophonie, ça, tu ne l'avais pas ressentie l'an dernier en Écosse ?
Non, 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 c'était beaucoup mieux organisé. Ça, c'est donc le point de vue logistique. Mais après, ce qui est plus embêtant, c'était sur le fond. Et là, c'est vrai que la présidence égyptienne a été extrêmement critiquée parce qu'il n'y avait pas d'impulsion forte pour les négociations. On est quand même dans un pays producteur d'énergie fossile, hein, donc du coup, il n'y avait pas d'ambition pour limiter réellement les émissions de gaz à effet de serre. Et ils ont réussi leur coup, d'ailleurs. La manière dont c'était dirigé, ça joue beaucoup. Les COP ont lieu tous les ans dans des pays différents. Et la présidence a un rôle vraiment extrêmement important pour mettre de l'huile dans les négociations, faciliter quand ça bloque, mettre autour de la table les pays les plus réticents pour les inciter à dialoguer, enfin voilà, pour faciliter l'avancée des négociations. Et là, l'Égypte, vraiment, n'a pas été à la hauteur. C'est d'ailleurs, je pense, une des rares COP où on a vu un texte de négociation arriver seulement le vendredi matin, ce qui était extrêmement tard, et ce qui a en partie expliqué le fait que cette COP se termine très très tard, ou très tôt, ça dépend, dimanche matin.
Et c'est compliqué ou pas de ne pas se laisser emporter aussi par son propre ressenti, sa propre émotion face à un tel enjeu planétaire ?
Alors ça, c'est un vrai sujet. Il faut savoir mettre ses émotions de côté. Moi, je sais que par moment, il y a des déclarations ou des attitudes qui créent chez moi, enfin chez la citoyenne, une forme de colère. Quand vous voyez les Américains qui restent bloqués sur leur position de gestion, on va dire, libérale du monde, sans vouloir tendre la main vers les pays les plus vulnérables, qui, eux, crient en plénière... La douleur du ressenti des conséquences du changement climatique, ça peut générer, oui, de la colère. Bon, après, voilà, vous allez faire un tour, vous respirez un grand coup, vous prenez du recul, vous allez justement boire un petit café, manger un petit gâteau, et puis vous vous remettez à votre travail en essayant d'informer de la façon la plus juste et rigoureuse possible. Mais oui, vous êtes traversé par des émotions dans ces COP, parce qu'on parle quand même de l'avenir de l'humanité, finalement, et de l'habitabilité de la seule planète sur laquelle on puisse habiter dans le coin. Donc, ouais, les enjeux sont forts et notre cerveau de citoyen ne reste pas à l'entrée de la COP.
On a bien compris que c'était un vrai marathon physique et mental de couvrir une COP. Si tu devais donner un conseil à un jeune ou une jeune journaliste qui, dans les années futures, va suivre une COP, ce serait lequel pour pouvoir survivre à tout ça ?
Alors oui, il y a un peu une notion de survie, hein, faut le reconnaître. Donc d'abord, bien se reposer avant, bien se former pour ne pas découvrir les enjeux sur place, mais avoir bien en tête ce dont on parle. Prendre des baskets, ça, c'est vraiment le conseil numéro un. Et son petit panier de gâteaux préférés, de bonbons, de petites douceurs qui vous aident à tenir, à avoir des réserves quand, ben voilà, ça, parce qu'on démarre tôt dans les COP, on finit tard. Et voilà, parfois, quand il est 22h, 23h, c'est bien de pouvoir se remonter un peu le moral avec ce qu'on a emporté dans son panier. Et puis, essayer de s'organiser pour suivre vraiment les trois piliers des COP qui sont les négociations, les conférences thématiques et les discours des ONG. Après, ce sont des expériences professionnelles et humaines fantastiques, parce que vous regardez l'histoire qui est en train de se faire. Et souvent, vous nouez des amitiés avec des journalistes, parce que voilà, vous partagez des galères, vous dormez à même le sol quand les négociations sont interminables. Enfin voilà, c'est un moment un peu fou, mais extraordinaire à vivre.
Merci beaucoup Anne-Cécile d'être passée dans Témoins d'Actu. L'an prochain, la COP, ce sera à Dubaï, c'est bien ça?
Oui, l'année prochaine, ça aura lieu à Dubaï. Je ne sais pas si c'est encore un lieu pour faire une COP, on peut se poser la question. Mais voilà, c'est comme ça. Les conventions des Nations Unies sur le climat doivent changer de zone géographique tous les ans. Donc l'année prochaine, rendez-vous à Dubaï pour la COP 28.
Merci, à bientôt.
Au revoir.
Si vous aimez Témoins d'Actu, n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez les épisodes, mettez-leur des étoiles, c'est pas mal aussi, sur votre plateforme d'écoute favorite. À très vite.